Éric Berthollet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui dans les studios de Fréquence Mistral à Digne pour parler de regard sur l'autisme. Il va y avoir un beau programme en cette fin de semaine, ce vendredi 31 mars et samedi 1er avril à Digne au Centre culturel René Char.
Un beau programme. Deux journées. Enfin, deux journées, pas deux journées complètes, quoi. Mais un petit week-end consacré à l'autisme et à la méthode des 3i, qui est une méthode développementale. Donc vendredi 31 et samedi 1er avril. Donc vendredi, on va commencer en soirée à 20h30 avec une projection d'un film qui s'appelle Hugo Julien, en présence donc du personnage principal du film qui est Hugo Auriot, qui est comédien, auteur, metteur en scène, qui est autiste lui-même. Hein, donc cette projection, la projection d'un documentaire réalisé par un ami d'enfance qui s'appelle Sacha Wolf. Qui est un réalisateur qui commence à être un petit peu connu, qui a été remarqué à Cannes sur l'édition 2016. Et c'est un documentaire très particulier. C'est 20 ans d'une amitié entre Hugo et ce réalisateur-là. Hugo qui s'appelle Julien à l'origine, c'est une histoire un peu singulière. Julien est un enfant autiste qui ne parle pas. Et qui, pour faire court, qui à l'âge de 6 ans accepte de quitter son monde, d'autisme, pour aller vers le monde un peu extérieur, un peu plus extérieur, le monde qui l'entoure, pour vivre avec les autres. Mais une seule condition, c'est de changer d'identité, de ne plus être lui. Et il devient Hugo. Voilà. Et après, Hugo, il grandit, Hugo, il se métamorphose et il devient petit à petit. Comédien, il écrit, il joue, et c'est cette évolution incroyable qui en fait est le thème de ce documentaire. C'est vraiment ces 20 années, sur une vingtaine d'années de temps, une compilation de prises de vue qui retrace ce chemin, ce destin.
Et les enfants qui étaient avec lui, comment le percevaient-ils ?
Alors ça, c'est un petit peu difficile à dire, je ne connais pas suffisamment je connais pas suffisamment Hugo et son rapport avec les autres à ce moment-là. Mais disons que très tôt, il a connu ce que beaucoup d'enfants autistes, malheureusement, connaissent. C'est qu'il est aiguillé vers plutôt de la psychiatrie. C'est qu'il est aiguillé vers des choses vers lesquelles il devrait jamais être aiguillé. Et il a une maman qui est écrivain, qui d'ailleurs a écrit un livre qui s'appelle... Le petit prince cannibale, qui raconte sa propre histoire. Il a une maman qui décide de tout lâcher et de ne s'occuper que de lui, de faire en sorte pour qu'il s'en sorte. Et elle refuse ce qu'on lui propose à l'époque. Et voilà. Et donc c'est ce cheminement-là, quelque part, c'est presque un cheminement atypique de parents avec enfants autistes. C'est-à-dire que quand le diagnostic tombe, et quand le système se manifeste pour prendre en charge, on est parfois éberlué par ce qu'on nous propose, quoi. Donc, pour l'expérience personnelle, mon petit garçon est concerné par un trouble envahissant du développement. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la seule chose qu'on avait à nous proposer, c'était l'hospitalisation de jour. À un moment donné. Et là, c'est quelque chose qu'on a refusé en bloc. Et donc, nous, on s'est tourné vers une méthode développementale qui s'appelle la méthode des 3i, voilà, qui est justement, qui fait partie aussi du programme des journées qu'on propose. Et cette méthode développementale a sorti notre petit garçon d'affaires. Il n'y a pas d'autre façon de l'exprimer, quoi. Donc, ce documentaire, comme... beaucoup d'autres témoignages, il y a des témoignages de parents, il y a des réalisations qui l'ont montré tant et plus, montrent que il y a un problème par rapport à la prise en charge de l'autisme et que malheureusement très souvent on est confronté à des choses qui nous forcent à se retrouver seul, à se replier sur soi-même. Et là, soit on trouve des solutions et on avance et voilà, soit on s'enfonce et soit le problème devient très très pesant.
Et malheureusement, le mot autiste, quelque part dans la bouche de certains, est une insulte. Quand on parle de quelqu'un, on dit « tu es autiste, si tu comprends rien », c'est vraiment malheureux comme expression.
Alors, justement, à ce titre-là, Hugo Auriol s'est positionné très clairement il n'y a pas très longtemps, notamment par rapport aux propos de François Fillon sur une chaîne nationale à l'heure de grande écoute, où il s'est quand même débrouillé pendant tout le temps de son intervention, à 3 reprises, de sortir la phrase qui tue « Mais bon, je ne suis pas autiste », l'air de dire « Je ne suis pas un crétin ». Voilà, donc ça c'est effectivement quand pour toutes les personnes atteintes d'autisme qui ont un enfant qui est concerné, qui sont les gens qui sont concernés eux-mêmes, c'est un message assez étonnant de la part de quelqu'un qui a des ambitions politiques de très haut niveau, hein, devenir président de la République et puis avec toutes les affaires qui, enfin bon, je rentre pas dans cette polémique là, mais là il a fait très très fort quoi. Et malheureusement, il n'est pas le seul. C'est très récurrent, les petites allusions sur des plateaux d'émissions de télé, des petites phrases comme ça, ou l'autisme finalement. Et voilà, quand on dit mais lui il est autiste ou je ne suis pas autiste, enfin voilà, c'est vraiment. Et ça, c'est quelque chose que Hugo Auriol combat fermement. C'est un militant, et je pense qu'il en parlera. Lors de sa conférence, après la projection du film vendredi 31.
Il sera même à la Ruelle pour dédicacer quelques ouvrages qu'il a fait.
Alors c'est le contraire, c'est la Ruelle qui en fait sera présente au Centre culturel pour permettre de rencontrer Hugo autour de ses 2 ouvrages principaux. Hein. Il a écrit 2 ouvrages, le premier qui s'appelle « L'Empereur, c'est moi », qui est un ouvrage qui a bien marché, qui a été publié dans plusieurs langues. Ça retrace son parcours, quoi, hein, qui est vraiment singulier. Et son autre ouvrage plus récent, qu'il a sorti il n'y a pas très très longtemps, c'est Carnet d'un imposteur, où en fait, après être devenu ce qu'il est aujourd'hui devenu, il admet, il l'écrit et il en parle, et c'est comme ça qu'il l'explique. Et d'ailleurs, Joseph Chovanec, qu'on avait reçu l'an dernier, dans le cadre des Journées de l'autisme, a un discours un peu similaire. C'est que pour pouvoir se sentir, pour pouvoir être intégré dans le monde des non-autistes, hein, puisque c'est un petit peu ça dont il s'agit, il y a une sorte de comédie sociale qu'il est obligé un petit peu de jouer au niveau de la façon de se comporter, au niveau des réactions, la façon d'être tout simplement quand une personne avec autisme parle face à face avec une personne non-autiste, hein, et bien quand il a conscience de ça, il est obligé de jouer une sorte de comédie, parce qu'il y a des attitudes que les personnes avec autisme n'ont pas de façon naturelle. Il est convenu que les personnes avec autisme ne bénéficient pas de ce qu'on appelle l'intuition sociale. Et l'intuition sociale, c'est cette façon de se comporter face à quelqu'un, donc dans le cadre d'une conversation, ce sont les réactions qu'on a pour que socialement on soit tous sur la même longueur d'onde. Il y a des choses, on s'en rend pas compte, hein, c'est des choses qu'on développe quotidiennement. Des attitudes, des manières d'être, mais qu'une personne avec autisme ne sait pas faire. Et donc c'est énormément d'efforts pour elle d'arriver à maintenir ce niveau avec les autres. Et voilà, donc Joseph Chovanec appelle ça, lui, une sorte de comédie sociale. Et donc Hugo Auriol parle clairement de ça dans cet ouvrage, Carnet d'un imposteur, c'est un peu une sorte d'imposture. C'est être obligé de faire en sorte de ne pas être soi-même, pour arriver à être intégré et à vivre dans le monde des non-autistes.
Et à contrario, les personnes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui peuvent être normales vis-à-vis de personnes comme votre enfant qui est autiste, quand ils sont gamins, est-ce qu'ils se rendent compte de la portée de leurs gestes, ou est-ce qu'ils essaient de se mettre à la portée de votre fils pour engager une conversation que votre fils ne voudrait peut-être pas avoir ?
C'est très complexe, c'est plus compliqué que ça. Par rapport aux enfants de son âge, à l'école, les problèmes de différence ne sont pas vécus de la même façon qu'avec les adultes. En ce qui concerne donc l'exemple précis de mon petit garçon, il a été très très précocement identifié comme ayant un trouble envahissant du développement. Donc on l'a pris en charge à une période de sa vie où il était encore seulement en crèche. Donc il était déjà dans un environnement collectif. Mais bon, la crèche, c'est voilà, c'est plus, je pense que c'est plus les encadrants adultes qui donnent le ton que les enfants eux-mêmes. Et bon, entre eux, il se passe pas la même chose qu'à l'école primaire, par exemple. Et il a été intégré à l'école primaire un petit peu plus tardivement de ce qu'il aurait dû être, mais de façon très très progressive. Et avec dans un environnement où tout le personnel enseignant était tout à fait au courant et avait joué le jeu de cette intégration progressive. Et très rapidement, il a eu tout autour de lui des enfants qui l'aimaient bien, quoi, qu'il prenait sous son aile. Donc il n'y a pas eu de souci de cet ordre-là à ce niveau-là. Et ensuite, plus tard, c'est vrai qu'on fait attention à ce que y a certaines réflexions qui ne sont pas forcément très judicieuses, quoi, de la part des adultes, souvent, qui croient bien faire en s'adressant à un enfant bon, avec un problème. Là, en l'occurrence, c'est de l'autisme, ça peut être un autre problème de handicap. Parfois, on blesse ou on crée des interrogations là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Et bon, après, nous, en tant que parents, il faut le gérer derrière. Mais globalement, non, c'est pas, il n'y a pas trop de problèmes. On est dans un environnement relativement calme et serein. Donc on n'est pas trop confronté à ce genre de problème. C'est plus difficile pour des enfants avec autisme, je dirais en milieu urbain, dans des écoles où il y a beaucoup de monde, où il y a, voilà, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses très très stressantes, où il y a une grosse mixité, où il y a une grosse concentration de population, de choses diverses. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Mais là, dans le cadre actuel, dans le cadre dans lequel nous on vit, on a cette chance-là, c'est quand même très apaisé, quoi. Donc il n'y a pas trop de problèmes.
Et pour revenir aux futures soirées de cette fin de semaine, donc il y aura cette projection, mais il va y avoir une conférence le lendemain à partir de 14h.
Le lendemain à partir de 14h.
Toujours au Centre culturel René Char.
Toujours au Centre culturel René Char. Une présentation donc de la méthode des 3 I. Qui est une méthode développementale. Alors, qui est 3 I, ça veut dire individuel, interactif, intensif. Alors, c'est une méthode qui a une particularité, c'est qu'elle est possible que grâce à la constitution d'une équipe de bénévoles qui vont faire en sorte que l'enfant soit stimulé à domicile dans une salle aménagée, une salle de jeu aménagée de façon très rigoureuse, de façon intensive, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, dimanche compris, vacances comprises, jours fériés compris, voilà. Puisque la clé de la réussite donc de la méthode, c'est le côté intensif. Individuel, parce que chaque bénévole va se retrouver pendant un laps de temps défini, entre 1h et 1h30, seul, face à face avec l'enfant, avec dans cette salle aménagée, équipée avec du jeu, avec des choses qui permettent de faire des choses physiques, avec des jeux divers et variés.
Des couleurs,
des sons, des odeurs, enfin des sons pas trop, mais des odeurs, des formes, des voilà. Tout ça aussi, c'est très rigoureusement défini à l'avance. Hein. Il y a certains types de jeux qui n'ont pas le droit d'être dans la salle. Et interactif, parce que le but recherché, c'est l'interaction entre l'enfant et le bénévole, l'adulte qui est là, qui va chercher à établir un contact. L'enfant avec autisme est retranché un peu dans un monde intérieur, un peu dans une bulle. Voilà, l'enfant autiste, il ne vous regarde pas dans les yeux quand on l'appelle, il pointe pas du doigt pour demander quelque chose, il n'est pas. Voilà. C'est tous ces petits détails-là qu'on essaye de prendre à bras le corps et auxquels on essaye de trouver une parade.
Et cet échange, les enfants autistes, il y a une demande où ça, vous avez l'impression que ça leur est imposé?
Alors, tout est là, en fait. C'est que dans le cadre de cette méthode-là, tout est fait pour que ce soit à un moment donné l'enfant qui se mette à se dire « Tiens, j'ai quelqu'un en face de moi qui s'intéresse à moi. » Et en fait, le contact, la relation, peut s'établir à ce moment-là. C'est ce qu'on cherche à faire. Et quand elle commence à s'établir, là, on essaie de la tenir, de la maintenir et de la développer et de la réitérer, etc. Et en fait, voilà, la méthode, la base de la méthode, c'est ça. Et tout à travers le jeu. Donc rien n'est imposé. On n'oblige pas l'enfant à adopter un comportement comme c'est le cas dans les méthodes comportementales, ABA notamment. Et c'est un petit peu là tout le combat de l'association AEVE, Autisme Espoir vers l'école, justement, qui a développé cette méthode des 3I. C'est que l'enfant n'a aucune obligation. C'est lui qui mène la danse. Il est dans sa salle de jeu, il est dans son univers. C'est aux bénévoles d'être au service, entre guillemets, de l'enfant et d'essayer, tout dans cette recherche de relation, cette recherche de contact, pas d'être en retrait, mais de surtout jamais chercher à imposer une réaction, un comportement, pas le forcer à parler, pas le forcer à chercher à apprendre à compter, etc. Voilà, les choses doivent se mettre en place toutes seules et ça marche.
Et pour ces bénévoles, il faut avoir une certaine aptitude pour pouvoir le faire.
Alors ces bénévoles sont ce qu'on appelle des bénévoles de compétence. Alors ça aussi, c'est un autre combat. C'est une équipe entre 20 et 30 bénévoles qui est nécessaire pour la prise en charge. C'est une équipe qui va être formée à la méthode. Donc c'est une formation de quelques heures, c'est pas une année d'école de médecine. Et la seule chose qu'on demande finalement à ces bénévoles, c'est de mettre leurs propres compétences à profit. Donc on a des bénévoles qui sont... leur compétence c'est la musique, il y en a d'autres ça serait plutôt la lecture, il y en a d'autres ça serait plutôt tel type de jeu, tel type d'activité, etc. Donc tant mieux, si vous avez des compétences, mettez-les en œuvre et essayez d'intégrer ça dans cette méthode-là. Mais ce qui est surtout, mais vraiment surtout demandé aux bénévoles, c'est d'être enthousiaste, toujours, tout le temps, quoi qu'il arrive, et de faire preuve d'affection par rapport à l'enfant, quoi. Et de surtout ne jamais se sentir ni jugé ni remis en question. Voilà, c'est une méthode qui est un petit peu difficile en général au début. Enfin, nous, pour notre part, les 10 premiers jours ont été très durs. Il y a eu un refus total de l'enfant, de mon fils. Et puis petit à petit, les choses se sont mises en place et très rapidement, c'est lui qui est devenu le chef d'orchestre de sa propre méthode. Il a vraiment, et les progrès sont arrivés de façon fulgurante.
Et pour ce samedi 1er avril, à partir de 16h, il y aura une table ronde qui sera organisée toujours au Centre culturel René Char. C'est Autisme et école, inclusion scolaire des jeunes enfants avec autisme. Où en est-on justement ?
Alors, ça, c'est un thème délicat, mais cette table ronde, l'idée de cette table ronde, c'était d'aborder le sujet avec des personnes concernées. Donc, sur le plateau, on aura des enseignants, on aura une auxiliaire de vie scolaire, donc ce qu'on appelle une AVS, un représentant de l'inspection académique, entre autres, voilà. Et on va aborder ce sujet délicat qui est l'inclusion scolaire. Alors, l'inclusion scolaire, c'est très technique. Comme terminologie, on va plutôt aborder l'intégration de l'enfant avec autisme dans le milieu scolaire. Comment ça se passe concrètement? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les dispositifs? Voilà. Qu'est-ce que les parents font quand ils ont un enfant avec autisme? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vers qui ils doivent aller? Voilà, c'est toutes ces petites questions-là. L'inclusion scolaire, c'est le terme, on va dire... Porté par le ministère de l'Éducation nationale, enfin par le gouvernement de façon générale, pour répondre à des lois et des décrets qui ont été passés dans les années passées sur l'obligation en quelque sorte d'intégrer les enfants avec handicap en milieu scolaire, voilà, et de mettre en place des dispositifs pour que ce soit possible, donc accompagner, aménagement, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été décidés, mais on s'aperçoit que sur le terrain, la réalité est tout autre, que c'est parfois extrêmement compliqué, qu'on se rend compte que le personnel enseignant n'a aucune formation. Voilà, l'an dernier, sur une table ronde similaire, il avait été dit que sur une carrière d'enseignant, ils avaient une sensibilisation à l'autisme qui devait être de l'ordre de 30 minutes. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour un enseignant comme bagage pour savoir quoi faire et comment réagir face à un enfant avec autisme dans sa classe? Moi, je pense que non. Voilà. Il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas encore très très bien. Quoi. Voilà. Donc on va faire un petit peu le tour du sujet.
Il n'y a pas de place à l'improvisation?
ben, c'est difficile. Un enfant avec autisme, comment est-ce que une personne lambda réagit face à une crise? Comment est-ce qu'on doit faire quand il se met à tourner en rond ou à développer ce qu'on appelle ses stéréotypes? C'est ce qu'il commence à ouvrir, fermer un tiroir. C'est quoi l'attitude à adopter? Déjà, une personne lambda ne le sait pas. Et un enseignant qui est confronté à ça, la plupart du temps, on se rend compte qu'il ne le sait pas non plus. Et chose encore plus étonnante, dans le monde soignant, dans le monde professionnel soignant, on se rend compte qu'il y a aussi des lacunes à ce niveau-là. Il y a un manque d'informations qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il est encore très 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 fréquent qu'une personne avec autisme soit considérée comme un psychotique et soit intégrée dans des unités psychiatriques et donc soit considérée et traitée comme telle, donc avec le cocktail médicamenteux et puis tout ce qui va avec. Il y a des choses encore très très étonnantes en France, et pourtant on est à la veille d'un quatrième plan autisme qui est présenté comme étant la grosse solution au gros problème de santé publique qui est devenu l'autisme aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi.
Et est-ce qu'il y a des codes où ces codes changent par rapport à l'enfant? Est-ce que le fait d'ouvrir un tiroir, comme vous disiez, ça a une signification particulière? De le fermer, ça a une signification particulière? Ou est-ce que quand il fait ce genre de geste, selon où il est, ça a une toute autre signification?
Le stéréotype, en général, ça s'appelle des stéréotypes, ce genre de comportement. De façon générale, le stéréotype, l'enfant autiste se rassure. C'est toujours consécutif à une angoisse ou à un mal-être, une situation. Voilà, quand l'enfant s'enferme. En fait, ils ont cette faculté, les enfants avec autisme, c'est quand ils sont trop angoissés, trop stimulés, ils débranchent la prise en quelque sorte, quoi. Et voilà, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur bulle, et les stéréotypes, les choses répétitives, ce sont des choses qui les rassurent. Et ils peuvent s'enfermer dans ce genre de choses-là, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et c'est vrai que l'objectif à atteindre, c'est de faire en sorte qu'ils s'enferment le moins possible dans ce genre de choses. Voilà, c'est toute la difficulté, c'est tout l'enjeu, ça fait partie des enjeux des prises en charge.
Tout à l'heure, vous parliez des futures élections présidentielles. Est-ce que le programme des différents candidats qui postulent à la présidence, est-ce que vous avez trouvé trace d'éléments qui concernent l'autisme chez eux?
Pas beaucoup. Très peu. Alors j'arrive pas à suivre ça de très 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 près, mais pas énormément. Ce que je sais par contre, c'est que tous les ans, le 2 avril, il y a la journée mondiale donc de l'autisme. Et ce que je sais, c'est qu'en règle générale, 15 jours avant, 15 jours après, fleurissent sur toutes les chaînes de télévision des plateaux divers et variés avec tel secrétaire d'État, tel ministre, etc. Il y a des choses qui sont annoncées. Donc voilà. Et puis en définitive, une fois que ça s'est passé, pendant toute l'année suivante, il n'y a pas grand chose de notable. Hein. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. On a Ségolène Neuville, qui est secrétaire d'État, j'ai oublié son pédigré exact, mais bon, qui s'est manifestée à plusieurs reprises en l'espace de quelques jours sur divers plateaux, encadrée d'ailleurs très très souvent des mêmes personnes. Alors c'est assez. Quand on observe ça, c'est assez étonnant de voir que d'un plateau à l'autre, sur une chaîne de télé à l'autre, en fait, on a des tablés qui sont à peu près constitués des mêmes personnes, qui disent à peu près les mêmes choses. Et donc il y avait Ségolène Neuville. Mais on n'était pas en période préélectorale, donc cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que les candidats prendront le thème et surferont sur la vague de l'autisme. On va voir. On verra bien.
Et toujours samedi 1er avril, en apothéose, à partir de 19h, Steve Waring sera à Digne.
Steve Waring.
Oui.
Le grand Steve Waring.
Le grand Steve Waring. Il sera au Centre culturel René Char, toujours à partir de 19h. Et c'est un heureux papa d'un grand enfant trisomique de 28 ans, Steve Waring, donc voilà. Pour en connaissance de cause.
Alors Steve a été très, très sensible à l'histoire de mon petit garçon, de la prise en charge, et puis il a suivi l'affaire de loin. C'est vrai que donc lui est papa d'un grand garçon, maintenant il a une trentaine d'années, trisomique, qui s'appelle Arthur. Et donc Steve a vécu ce statut de parent ayant un enfant différent. Et donc la différence, c'est quelque chose qu'il a su traduire au travers de certaines de ses chansons. Et quand on réécoute un peu toutes ces chansons Il y avait celle qu'on écoutait quand on était enfant nous-mêmes, quoi, hein, puis celle qu'il a faite ensuite. C'est vrai qu'il y a un premier degré, hein, l'enfance, la tendresse, etc. Puis il peut y avoir parfois une seconde lecture, et on se rend compte que l'enfance, la différence, tout ça, ce sont des thèmes qui sont joliment traités dans toutes ses chansons. Son fils Arthur, d'ailleurs, a bénéficié d'une chanson qui s'appelle Arthur. Voilà, et donc on est un peu en famille quand on écoute le répertoire de Steve Waring. Donc je pense que ça serait une soirée agréable pour clôturer l'événement. Soirée familiale, voilà, on va pouvoir sortir en famille. On a délibérément choisi un horaire qui soit le plus confortable possible, 19h. Voilà, c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde.
Et ces soirées seront partenariat avec l'association Cœur Lavande ?
Alors c'est l'association Cœur Lavande qui porte le projet. Donc l'association donc présidée par Jean Tripodi, et donc c'est Cœur Lavande qui est l'acteur principal donc hein, de cet événement là qui porte l'événement et qui a commencé d'ailleurs à travailler suite à l'édition de l'an passé à travailler sur un projet de mise en place sur Digne ou sur le pays dignois, c'est qu'un projet d'une structure qui s'appelle Ludaccueil, qui est une structure expérimentale. Il y en a une en France, à Courbevoie.
Dans les Hauts-de-Seine.
Voilà. Et c'est une structure qui permet à plusieurs familles qui suivent la méthode des 3I, dont on va parler un peu plus, de se regrouper sur un même lieu, peut-être même de mutualiser des moyens, pour que cette méthode-là puisse être possible en dehors du domicile. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans cette méthode-là, il faut s'attendre à ce que pendant minimum 2-3 ans, ce qui est quand même c'est pas négligeable, il faut s'attendre à devoir être disponible, à trouver du monde pour l'être, pour pouvoir accueillir à domicile tous les jours, à raison de toutes les heures et demie, un bénévole nouveau. Il y a les réunions hebdomadaires aussi qu'il faut organiser. Il y a toute une organisation assez lourde qui se met en place et qui peut, on va dire, plomber une vie familiale, voire une vie professionnelle. Et donc, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un des deux parents qui est obligé d'arrêter de travailler, ou chacun obligé de se mettre à temps partiel. Est-ce que, donc économiquement, familialement, etc., il y a beaucoup de répercussions qu'on ne soupçonne pas, mais qui peuvent lourdement affecter le climat familial. Et malheureusement, c'est ce qui se passe très très souvent. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent et qui sont pas vraiment profitables à la prise en charge de l'enfant. Donc l'idée d'imaginer une structure qui regroupe plusieurs familles, qui permette justement aux familles un petit peu de se délester de ce poids-là et de pouvoir continuer à avoir une vie professionnelle, une vie sociale à peu près normale. Donc voilà, c'est cette idée-là, le principe du centre Lutte d'éveil. Et donc voilà, c'est un projet qui est en cours. On va voir.
Il y aura des sorties qui seront organisées entre tous les enfants ?
On n'en est pas encore à ce stade-là, mais pourquoi pas, si un jour une structure de cet ordre-là peut se mettre en place, peut se mettre en route. Après, oui, on peut imaginer des choses extérieures et plus loin que simplement la prise en charge dans un local, quoi.
Eric, rendez-vous vendredi soir, vendredi 31 mars à partir de 20h30 pour cette soirée Hugo Orio, oui, au Centre culturel René Char.
Suivi donc d'une petite conférence menée par Hugo lui-même et d'une rencontre ensuite à la fin de tout ça. La soirée se clôture par une rencontre autour de ses ouvrages et en partenariat avec la librairie La Ruelle.
Et pour l'association Cœur Lavande, le site c'est www.cœurlavande.fr.
Voilà, www.cœurlavandetoutattaché.fr, un numéro de téléphone qui est le 04 92 36 15 11. Donc on remercie au passage tous les partenaires, on en a quelques-uns quand même. On a le Lions Club International qui nous avait déjà soutenu l'an passé, donc qui nous rejoint cette année. La librairie La Ruelle, évidemment, les rencontres cinématographiques. Vincent Dubreuc, l'office de tourisme de Digne-les-Bains et la ville de Digne, évidemment, qui met gracieusement à disposition donc, le centre culturel. Et aussi des surfaces d'affichage municipales pour pouvoir communiquer autour de l'événement.
Et pour trouver les billets ?
Sur le site www.cœurlavande.fr, il y a les liens nécessaires pour pouvoir prendre le billet soit pour la soirée de vendredi 31, donc la projection et la conférence de Hugo Orio. Donc c'est un billet à 5€ pour la soirée. Et le billet aussi pour le concert de Steve Waring de samedi soir 19h, donc qui est à 10€. Voilà, les billets peuvent être pris en ligne. Il y aura aussi une billetterie sur place.
Oui, physiquement, il y a l'office de tourisme.
Mais sur place, le jour même, c'est sûr. À bientôt.